Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Et bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien tout simplement. Vous êtes sur votre quotidienne sportive Time Sport tout simplement. Écoutez, on est ensemble pendant une heure, chers auditeurs et chères auditrices, c'est magnifique. Buonasera a tutti, vous m'aurez reconnu, c'est Solal évidemment sur le plateau. Il y a des gens magnifiques, on va les présenter dans un instant, vous inquiétez pas. Écoutez, bah, on va parler de nombreux sujets, forcément Lyon, on a Benji, qui de mieux que Benji pour parler de nos amis lyonnais. Et ce soir, on vous a réservé des invités de grande classe, on les présentera dans un instant les amis. Des champions d'Europe Junior. Allez, on va pas trop teaser non plus les amis, on va vous laisser donc avec forcément ce plateau là. Vous êtes bien sur Beurre FM, votre radio préférée, ne bougez pas.
Time Sport. Il est pour parler.
Et oui, vous aurez reconnu cette musique, Eyes of the Tiger, forcément. On est bel et bien sur Beurre FM, vous l'aurez reconnu, Vivien. Bonsoir à toi, comment vas-tu Vivien?
Bonsoir Solal, bonsoir à tous. Bah écoute, on a des bons invités, puis faut profiter parce que dans quelques années, quand ils seront médaillés olympiques, riches, ce sera plus difficile de les avoir. Hein. Ils auront beaucoup de prétendants, de prétendantes, donc on est ravis de les accueillir en tout cas.
Il y a Bilal qui fait son entrée.
Ouais, c'est fait, pas la peine de faire mon entrée parce que j'étais là, j'étais en bas, mais j'ai été bloqué, mais ça fait rien.
Aïe,
ça va?
Ça va.
Ouais, ça va.
Ça va
Benji,
toi?
Comment ça va Benji?
Et la femme et toi?
Ouais, Jouba il devait pas être là, il a piqué la place à Faouset, mais ça va, on va rien dire quand même. On est en live, c'est du pur live, on est avec Moussa aussi qui nous accompagne ce soir sur l'antenne de Beurre FM.
Bonsoir à tous.
On va parler de quoi ce soir justement? On va parler avec Maëlys, sans oublier aussi Shadi, c'est nos deux invités de ce soir représentant la boxe française. On parlera aussi de ces JO de Paris 2024. On va revenir bien entendu sur cet Olympique Lyonnais en marche pour une nouvelle saison, peut-être une nouvelle année 2024 remplie de victoires. C'est tout ce qu'on espère pour le club rodanien et sans oublier aussi Mbappé. Mais on va pas rester sur le cas Mbappé et sans oublier aussi le cas Luis Enrique. On va s'attarder surtout sur cette Super League qui fait tant jaser sur les réseaux sociaux, tant aussi jaser aussi l'affaire Galtier, justement. Une affaire peut-être de trop, une affaire même nulle, parce qu'on en a vu que la personne qui n'est autre que Monsieur Galtier qui a été relaxé aujourd'hui après la décision du tribunal de Nice. On va en revenir longuement avec vous, chers auditrices et auditeurs, sur cette antenne. Mais sans plus tarder, on va présenter justement cette fine équipe qui m'accompagne jusqu'à 21h avec Benji, je le rappelle, Faouset, Jouba, sans oublier Moussa et aussi notre Vivien National. Un grand merci à toi Solal d'avoir enchaîné cette introduction. On va s'attarder sur le cas dans un premier temps, avant de revenir avec nos boxeurs, on va s'attarder sur le cas de Lyon, l'Olympique Lyonnais, Benji.
Ouais.
On rigolait de cet Olympique Lyonnais, mais on s'est attardé sur cet Olympique Lyonnais. Il y a eu des buts, Farid est très heureux et il te passe le bonsoir ce soir.
Je lui passe le bonsoir également, comme à tous les supporters lyonnais, tous les auditrices qui nous écoutent et les auditeurs, bien évidemment. Non, très heureux de ces trois points pris avant la trêve qui font du bien, qui permettent à l'OL de maintenir la tête hors de la zone rouge, sachant qu'en début de saison, c'était vraiment plus que compliqué. On s'est fait des très très grosses frayeurs, donc tout n'est pas au vert pour le moment, mais l'arrivée de Pierre Sage, comme j'avais pu l'annoncer il y a quelques semaines de ça, si tu te souviens Bilal, j'avais été plutôt positif sur son arrivée alors que beaucoup riaient de l'arrivée de Pierre Sage au début. Je pense que c'est un profil intéressant, c'est à peu près ce qu'il faut du côté de l'Olympique Lyonnais, comme je l'avais dit, plus dans un rôle de psychologue que d'un maître d'école qui va facilement taper sur les doigts. Quelqu'un qui connaît le club, qui connaît les joueurs qui composent cette équipe et qui permet de faire un jeu simple, parce que le jeu de Pierre Sage est quand même un jeu simple, c'est technique, c'est précis, mais ça reste simple, ça reste des bases, et c'est ce qu'on a besoin quand on joue le maintien, c'est ce qu'on a besoin quand on est cet Olympique Lyonnais là. Et en plus de ça, il y a le mercato hivernal qui arrive, parce que bah, Pierre Sage n'est pas non plus un magicien, il arrive à maintenir cet OL un peu hors de l'eau, mais quand tu regardes cet effectif qui compose cette équipe, c'est quand même un petit peu limite sur beaucoup de postes. Donc si tu arrives à faire 4, 5 entrées du côté du mercato hivernal, ça pourrait faire vraiment du bien, renforcer des postes qui sont un petit peu en difficulté, je pense notamment
renforcer lors du mercato,
un défenseur central. Et dans ces cas-là, on aura vraiment un Olympique Lyonnais qui pourra aller de l'avant et déjà prendre ces points qui ont été pris là, c'est quand même déjà très positif. Bon. Et puis Pierre Sage qui va pouvoir amener cette équipe encore plus haut.
Ouais, plus haut, on l'espère. Vivien, que dire? Là aussi sur ce club qui est l'Olympique Lyonnais, beaucoup de moqueries en début de saison.
Oui,
ouais.
Beaucoup de moqueries, mais il y avait quand même une vraie inquiétude. Enfin, il y a un mois, moi je me demandais vraiment si l'OL était capable de descendre en Ligue Ligue 2. Donc on a un club voilà avec un entraîneur qui est assez neuf. Alors pour rappeler aux auditeurs, Pierre Sage notamment était adjoint d'Habib Bey au Red Star.
Exactement.
Ça c'était une expérience. Et ce que je veux dire par là, moi ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est un petit peu ce qu'on appelle du sang neuf, quelqu'un qui est pas issu forcément du Serail, qui a passé bien sûr ses diplômes d'entraîneur, mais qui voilà qui est une voix un petit peu peut-être nouvelle, comme disait un petit peu voilà précédemment. C'est ça va pas être forcément la plus grosse tactique, mais bon, premièrement il a redonné confiance au cadre.
Bien sûr.
Et on voyait très bien qu'avec Grosso, ah ben ouais. le discours ne passait
marché.
Plus.
Ouais.
Oui, ça a pas marché.
Aussi,
après, c'est
un manque de confiance aussi.
Oui,
mais c'est pas
ça.
Que Grosso la faute. Hein.
Non, c'est faut rappeler aussi que le club, pour moi,
Lyon
est en dérive depuis.
Aussi.
Je trouve même que le club, bizarrement, en dérive depuis qu'ils ont le nouveau stade. C'est-à-dire, j'aurais même dit que depuis.
Il y en a un petit peu avant, mais.
La direction du club aussi.
Non,
j'ai problème de Paris, j'ai certains supporters et supportrices.
Exactement. Il faut le rappeler.
Hein,
exactement.
Hein.
Non, c'est un échange, c'est-à-dire un mix, c'est-à-dire la direction.
Bien sûr.
Pourquoi est-ce que j'accède sur ce nouveau stade? C'est parce que j'ai l'impression que c'était peut-être la stratégie qu'avait anticipé Olas il y a quelques années pour vraiment être rentable.
Mais
avoir
le Covid
chose.
A tué cette théorie du stade, justement.
Exactement.
Quand tu as un stade que tu payes, que tu as acheté, dont tu es le propriétaire, si tu ne peux pas le remplir, bah c'est que du déficit, et tu t'endettes dans quelque chose qui n'est pas rentable et sur lequel t'as investi énormément.
Ouais.
Donc je suis totalement d'accord avec toi, et pour moi ça vient même d'un petit peu avant. Je trouve que ça fait vraiment 7-8 ans que le club, tu sens que ça descend petit à petit.
Moi j'essaie d'être un peu gentil, hein,
mais ça descend petit à petit.
C'est tout à l'heure qu'il faut être gentil, c'est pas maintenant. Là tu peux aller, vas-y, c'est justement maintenant qu'il faut y aller.
C'est vrai qu'on est arrivé à un point qui est très compliqué en début de saison. Vraiment, l'OL c'était le pire jeu d'Europe, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais on était vraiment dans quelque chose qui était un marasme absolu, et le choix Grosso a été mauvais dès le départ. Ça on le savait, il y avait très peu de gens qui croyait en l'esprit Grosso, quand on connaît ses qualités de coach. Il a des qualités de coach, Grosso, quand même, il en a. Mais pas
merci de le rappeler, mais
d'arriver dans une équipe de l'Olympique Lyonnais aussi malade.
Alors.
Et ses qualités n'étaient pas celles dont l'Olympique Lyonnais avait besoin à ce moment-là. Que Pierre Sage a peut-être un peu plus, notamment par son parcours.
Faut aussi cette réaction concernant le football lyonnais. Oui. L'Olympique Lyonnais.
Ouais, pas. Enfin, comment dire, c'était quand même une belle victoire après tout ce qu'on a vu depuis le début de saison. Comme vous l'aviez dit, donc je ne veux pas reprendre ce que vous avez dit, mais oui, c'était carrément la risée. On n'en croyait plus et tout ça. Et là, aujourd'hui, ils sont 15e. Donc, je ne sais pas si on doit dire que. Que ça commence les beaux jours, bah et l'entraîneur aura peut-être plus de peut-être plus de crédibilité de rester un peu plus aussi, et retrouver surtout la stabilité au sein de l'Olympique Lyonnais qui a vécu, c'est des moments super difficiles depuis le début de saison.
Ouais, difficile. Benji.
Ah bah oui, je pense que tout supporter lyonnais ou même tout suiveur de la Ligue 1.
Je reviens sur ce mot, manquerie, hein, surtout.
Ah non, mais c'est
les Parisiens, les Marseillais, les Bordelais, les Stéphanois aussi.
Mais les Lyonnais eux-mêmes se moquaient de leur propre club.
Ouais.
Ça, c'est une évidence. Il fallait être complètement déconnecté.
Incident à Marseille aussi avec le bus.
Évidemment,
mais les supporters.
Ouais. Même au-delà de ça, il fallait être totalement déconnecté en début de saison pour dire que Lyon n'était pas à sa place. Lyon était à sa place en début de saison quand tu regardais le jeu qui était proposé.
Bah, et on retiendra à jamais ce que le Capo avait fait justement. Je ne me rappelle plus quel match avait joué Lyon. Tous les joueurs ils étaient debout en train de se fait lessiver, mais vraiment par des supporters que j'oublierai jamais, et ça fait mal pour des joueurs comme ça.
Ouais.
Et voilà, peut-être qu'il y aura un mea culpa dans pas très longtemps.
Ah bah justement, Farid au 01 53 48 3000, grand amoureux de Benji mais aussi de l'Olympique Lyonnais, qui passe le bonsoir à toute l'équipe de Tam Sport, sa rédaction qui est Beurre FM, pour de bonnes fêtes, c'est ça Farid?
Exactement, bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Bonsoir Farid. Bonsoir.
Voilà, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne fête de fin d'année. Et merci encore pour cette année de radio passée à vos côtés. Voilà, je vous souhaite vraiment de continuer ainsi, et bravo pour toutes vos chroniques et votre émission.
Alors justement, donc, l'Olympique Lyonnais, c'est reparti.
L'Olympique Lyonnais,
on l'espère.
J'ai pas envie de parler de miracle, parce qu'il y a quand même, comme vous le disiez, Pierre Sage, que nous on connaît un petit peu, parce que c'était le directeur, enfin c'est toujours le directeur du centre de formation, même si avant il avait entraîné les U16 et les U17 à Lyon, ensuite il a fait un passage au Red Star. Là on a vu quand même ce qui est intéressant dans les 3 victoires de suite, il faut quand même rappeler que c'est 3 clean sheets aussi. Et ça c'est parlant, parce que moi j'ai l'habitude de revoir les matchs en replay, et je peux vous dire que même s'il nous manque encore peut-être un ou deux défenseurs, ou peut-être voir un milieu défensif, il y a quand même l'équipe qui a montré une grosse solidarité, et voilà, on défend mieux. J'ai remarqué que les joueurs sont mieux placés que d'habitude sur le terrain. Donc effectivement, cet homme-là, on a l'impression qu'il a apporté, mais en très peu de temps, Voilà, c'est ça qui est incroyable. Une certaine sérénité au niveau de l'équipe et qui a redonné confiance aux joueurs. Donc, ça ne peut que être tout bonus pour Lyon, hein, pour la reprise, on verra. Maintenant, est-ce qu'il va rester ou pas? Moi, je pense qu'ils vont continuer avec lui. Maintenant, le mercato, je suis moins d'accord avec ce que j'ai entendu, même dans certains médias, ou voire même de la bouche de Pierre Sage. Il faut absolument se renforcer. Ça, c'est indéniable.
Après, c'est...
Alors, Vivien, avec Farid.
Je suis d'accord, Farid, mais quand on dit faut se renforcer, c'est là où il faut vraiment que la cellule de recrutement soit très bonne, parce que souvent, le mercato d'hiver, pour moi, c'est très, très rare de faire des bons coups.
Attention, et Coupe d'Afrique aussi des Nations, hein. Coupe d'Afrique des Nations aussi, hein.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour, il faut se dire aussi, quel joueur a envie actuellement d'aller dans cette équipe de Lyon, gérée par un manager textor qui, pour moi, il est entre Lyon, il est entre la France, le Brésil, l'Angleterre. Il fait le tour du monde, mais on a l'impression qu'il est jamais à Gerland, sauf pour les petits fours. Donc actuellement, moi je trouve faut peut-être aller faire un coup peut-être au Portugal, aux Pays-Bas, dans des championnats où il y a de la qualité, où on connaît moins. Mais sinon, ouais. Farid, je sais pas si tu penses à un joueur comme ça. Moi, je trouve ça difficile actuellement.
Non, il faut quand même rappeler que le mercato d'hiver, effectivement, il est un peu particulier par rapport au mercato estival. Mais je pense qu'ils ont déjà une longueur d'avance. Il y a une cellule de recrutement que John Textor a montée, justement. C'est leur travail, c'est eux les experts. Voilà, et je pense qu'ils vont nous dénicher quand même les besoins qui seront peut-être demandés d'ailleurs par Pierre Sage aujourd'hui. Mais déjà, je peux vous dire que, par exemple, derrière Cacré et Tolisso, aujourd'hui, vous n'avez personne. Et ça, il faut le savoir. D'ailleurs, Pierre Sage a écarté 3 joueurs sur les 3 derniers matchs. Mmh. Il a écarté Akoku. Il a écarté l'attaquant Baldé, et ensuite il a écarté aussi Alvero. Et voilà, donc s'il les a écartés sur les 2-3 derniers matchs, à mon avis, c'est qu'il s'est aperçu qu'ils n'avaient peut-être pas le niveau, ou voilà, qu'ils n'étaient pas dedans, quoi. Donc moi, pour moi, personnellement, il faut un milieu 6, un gros travailleur, un rock, quoi, un vrai milieu défensif. Et voilà, comme ça, il va aider un petit peu à solidifier ce milieu de terrain. Il faut un défenseur central. Alors, on a entendu parler depuis pas mal de temps du défenseur Adrielson et peut-être du gardien de Botafogo. Bon, faut voir si ça se concrétise ou pas. Mais en tout cas, voilà, parce que Diomandé, je pense qu'il n'est plus aussi sur les plans de Pierre Sage et du club. Donc voilà, il va falloir au moins un ou deux défenseurs. On a entendu parler aussi de 2 milieux de terrain, donc un milieu défensif et un milieu offensif. Et devant, bien sûr, il va falloir remplacer Nouama, parce qu'il y a la CAN qui arrive. Donc, il faudra un ailier et forcément un remplaçant à Baldé qui, à mon avis, ne restera pas.
Oui, Benji, pour terminer, la fois où vous êtes.
Oui, je suis en grande partie d'accord avec toi sur les postes que tu as ciblés, notamment pour le recrutement. Farid, peut-être là où je mettrais un bémol, moi, c'est plus pour... Si je me fie sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vu et ce que je connais de Pierre Sage, peut-être que le numéro 6, je vois peut-être un 6, donc défensif, évidemment, mais qui a aussi un peu de ballon. Toi, tu te parlais vraiment d'un rock, quelqu'un qui venait récupérer des ballons, couper les lignes. Moi, j'ai l'impression qu'il cherche quand même d'avoir un peu un numéro 6 qui a du ballon et qui permet d'être un peu le premier relanceur et peut-être de te créer, de pouvoir te conserver le ballon, faire un jeu de possession et qui permet d'être un peu le canalisateur, si je peux dire en quelque sorte, de cette équipe et de la tenue de balle lyonnaise. Parce que c'est vrai que tu peux avoir des milieux de terrain qui peuvent créer, des ailiers qui peuvent faire des différences, et un attaquant qui peut marquer. Il te manque peut-être ce numéro 6 qui est capable de gratter des ballons, de récupérer, de jouer simple, mais de te faire des différences par une balle maintenue, par un geste, par une passe en profondeur. Et j'ai l'impression que peut-être c'est plus un profil comme ça. Enfin, moi, en tout cas, si j'étais recruteur, si j'étais à l'Olympique Lyonnais, j'irais sur un 6 défensif, évidemment, qui va gratter des ballons, mais qui a aussi vraiment, vraiment du jeu et qui est pas fâché avec le ballon comme on a pu recruter dans le passé.
Ouais. Là, Farid, pour une dernière réaction.
Quand je disais un rock, je vais rectifier, hein. C'est pas un bourrin. Quand je dis un rock, c'est allier le physique et la technique. Et bien sûr, ces joueurs-là, ils sont très très rares, il y en a très peu et ça coûte très très cher. Je vous donne un exemple. Ouais. Il nous faut un Lassana Diarra. Voilà, un peu ce style-là.
Lassana Diarra, ouais.
Qui était pour moi l'un des meilleurs 6
au monde.
À une période.
Voilà. Un grand merci, Farid, d'avoir été avec nous sur l'antenne de BFM.
Merci à vous, merci beaucoup.
Merci, Farid, d'avoir composé le 01-53-48-3000 avec nous sur LAL. Et on va terminer sur ce débat avec Faouzet, notre consultante.
Ouais, Farid Lassana Diarra, c'est très judicieux. Un des joueurs qui a fait partie de 2 équipes rivales. On a un bon paquet, mais lui, c'est un très bon joueur. Franchement, il s'est imposé. Par rapport au transfert, etc., moi, je trouve pas que l'équipe de Lyon, même si c'est toujours un plus d'avoir des joueurs sur le banc pour pouvoir les utiliser, a déjà un très bon collectif. On l'oublie souvent, malheureusement, mais ils ont un vivier de jeunes qui, même si là en ce moment peinent un peu à se faire remarquer ou à jouer ensemble, ont un vivier de jeunes qui a beaucoup de potentiel. Et ça fait déjà des années en fait. Lyon, on les connaît depuis des années pour leurs grands joueurs, Juninho et ses coups francs incroyables. Il y a Benzema qui est passé par là et j'en passe. Et au final, malheureusement, comme on le sait tous et on en parle depuis le début de cette saison, Lyon n'arrive pas. Pour autant, c'est très bizarre, mais moi, Lyon dans ma tête a toujours sa place dans le top 10 français en fin de saison. C'est-à-dire que je les vois toujours, malgré ce que disait Benji, était très triste à propos d'une possible relégation. Moi, Lyon, dans ma tête, pas sur le terrain, pas quand on regarde leur jeu, ouais, mais dans ma tête, pour moi, ils vont finir cette Ligue 1 minimum dans le top 10. Ah ben et voilà, je pense que je vais soutenir ça jusqu'à la fin de la saison et qu'ils ont complètement les armes
pour. D'accord avec Solal. Tu verras.
Oui,
toi, carrément, aussi,
et
avec
ça
toi.
A parlé aussi d'un potentiel départ de Ryan. Oui, exactement.
Ah, 20 millions
exactement. Et bah, non, pas du tout. Bah, hier, il avait dit clairement dans la zone mixte qu'il avait quand même des choses à faire au sein du club, ce qui est déjà cool. Et ça va leur permettre de se démarquer, enfin comme on parlait de collectif aussi, qui est super méga important, bah, ouais, ça va, bah, c'est en fait, si vous voulez on peut faire une petite comparaison avec le PSG qui n'arrivait pas aussi au bout d'un moment,
PSG, bon,
mais qu'il est quand même premier. Oui, carrément, mais l'Olympique Lyon carrément, enfin il n'arrivait pas, mais ça va le faire. Je reste quand même optimiste par rapport au Olympique
Lyon. On va voir, Fawcett, reste avec nous jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa avec Benji, avec Vivien, Jouba et de la partie, sans oublier aussi Moussa, cette page spéciale avec nos deux invité de ce soir concernant la boxe.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours là jusqu'à 21h. Il est fou, c'est ce Jouba. On va voir s'il connaît le noblard. Jouba, on est en compagnie. Oui, la boxe, t'inquiète pas, on est à la boxe. Il y a bien l'épée sur terre. Tu es avec nous dans le studio de Beurre FM,
ben
Jouba.
Oui. Okay, avec Bilou, c'est le plus important.
Ah ouais, alors attention, parce qu'on n'a pas envie de terminer ce soir. On va parler de Super League et sans oublier aussi le procès Monsieur Galtier. On l'oublie pas. Un petit cadeau, voilà. Ça, c'était pour Vivien, le consultant. Moussa qui est avec nous ce soir. Bonsoir Moussa.
Bonsoir à tous.
C'est notre page spéciale Noblard concernant la boxe avec nos deux invités. Oui. Justement, place à nos deux invités.
Time Sport, The Special One. The Special One.
Et ce soir, on est en compagnie de Maïlis, justement, championne d'Europe, junior, et sans oublier aussi Shadi, notre garçon qui est là. Il est aussi connaisseur, c'est ça Moussa, de football, membre de l'équipe junior, aussi de France, membre de l'équipe de France, excusez-moi. Il est avec nous. Bonsoir, messieurs, dames. Comment allez-vous, Maïlis et Shadi?
Bonsoir, très bien, et toi?
Ça va, tranquillement. Bonsoir. Vraiment. On vous accueille ce soir parce qu'on nous a dit, il y avait deux pépites montantes de la boxe française. Et c'est vrai que voilà, il faudrait les accueillir. On est sur une année, à partir de 2024, année olympique. Et c'est vrai que cette boxe, des fois, elle est un peu parsemée d'embûches, si je peux me permettre, le noblard. Mais bon, la France a connu de grands championnes et de grands champions, faut le rappeler. Et c'est pour ça que ce soir, on aimerait mettre à l'honneur, justement, Maïlis et sans oublier Shadi. On la personne aussi de notre consultant spécialiste sport de combat qui n'est autre que Moussa. Mais Moussa, c'est bien ça, Moussa?
Mais bien sûr.
On les a suivis ce week-end, c'est ça?
Oui, tout à fait, du côté de Deuil-la-Barre, où chacun d'eux a eu le titre de champion de France senior, et dans la catégorie des 66 kilos pour Maïlis et dans la catégorie des 75 kilos pour Shadi. On a assisté, je pense, à deux beaux combats. Deux beaux combats.
On rappelle vraiment que tu étais.
Oui, bien sûr.
Ouais. Comme
j'étais aux événements précédents, en quart de finale et tout ça. Ouais. Et je suis allé à Deuil-la-Barre au final des championnats de France et ça s'est super bien passé, des très beaux combats et dont les deux invités qui nous ont fait une prestation magnifique. On n'oublie pas bien sûr les finalistes Fatia et Anatole, mais ils nous ont subjugués entre guillemets.
Et c'est, les amis, vous êtes originaire du 91, vous baignez assez tôt dans cet univers là de la boxe. Pour toi Chadli, t'as 21 ans, et puis toi Maïlis, t'as 18 piges, et puis toi vous êtes vraiment baigné dans cet univers là même si vous êtes amateur aujourd'hui, encore amateur, vous avez quand même quelques ambitions dans ce milieu là qui veut peut-être commencer, Maïlys, non ?
Alors,
honneur aux femmes d'abord peut-être.
Ouais, on va écouter Maïlys.
Oui, pour l'instant, moi personnellement, ça fait 4 ans que je pratique la boxe. Donc ça fait pas très longtemps, mais
je suis montée. T'as commencé à 14 ans ?
Oui, voilà. Okay. Je suis montée en flèche assez vite. Et du coup, oui, donc là, il y a une prochaine échéance majeure que tout le monde connaît.
Ouais.
Qui est les JO de Paris 2024.
C'est ça.
Donc, je vais donner mon maximum pour pouvoir y participer. Et après, sur le long terme, pour ce qui est de la boxe professionnelle, en tout cas, me concernant, je sais pas encore, on verra de quoi il fait demain.
Ouais. De quoi il fait demain, justement ? Peut-être, voilà, est-ce qu'on a des belles et longues carrières en France ou peut-être s'exiler ? Maïlys, à l'étranger, c'est quoi que vous aimeriez faire ?
Personnellement.
Ouais, on se la pose déjà la question.
En professionnel, pour l'instant, franchement, je sais pas. Ça m'intéresse pas plus que ça, on va dire.
Ouais.
Je suis plus attiré par la boxe amateur.
Bien sûr, boxe amateur, c'est bien ça. Chadi, lui aussi, c'est ça.
De grandes ambitions,
de grandes ambitions
en boxe amateur.
Ouais.
Et surtout de grandes ambitions en boxe professionnelle. Moi, je suis un
aussi.
Grand passionné et fan de boxe professionnelle depuis que je suis tout petit.
Mais nous aussi.
Donc, je porte du Mohamed Ali.
Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, il a rebord.
Je regarde que la boxe olympique. Je regarde très peu la boxe olympique. Je regarde beaucoup la boxe professionnelle. Je pratique la boxe olympique. J'ai mes objectifs dans la boxe olympique. Une fois qu'ils seront atteints, ou en tout cas que j'aurai tout fait pour essayer de les atteindre. La suite logique derrière, c'est une carrière chez les professionnels. Faut savoir que on est moi je suis chez les poids moyens.
Bien sûr.
C'est une catégorie très regardée, très regardée chez les poids lourds, chez les professionnels. Donc on va essayer de passer professionnel avec de grandes ambitions aussi derrière pour aller chercher des titres.
Chadi, tu nous parles des échéances qui t'attendent. Quelles sont les tiennes ? Maïlys, je pense que c'est Paris 2024, mais de ton côté, c'est
parce qu'il y a pas de catégorie pour toi. Hein.
Alors moi de mon côté, on a les championnats d'Europe élite. C'est pas sûr d'y participer encore. On essaye de tenter la sélection d'ici le mois d'avril. Mais sinon, la grosse échéance, ça va être au mois de septembre. C'est les championnats d'Europe moins de 22 ans. Donc ça va être la deuxième fois pour moi que j'y participe. Cette fois-ci, on tentera de rentrer avec la médaille la plus belle, j'espère.
Nous aussi.
Donc ce sera pour le mois de septembre, fin septembre, je crois. Et ce sera à Bakou, en Azerbaïdjan, je crois.
Ouais, c'est magnifique, Bakou, en plus. Oui, Jouba.
Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de catégorie, justement, aux Jeux Olympiques en moins de 75, là où tu boxes, là où il y en a une pour Maïlys. Et justement, on parlait un peu des gros noms de ce qui a fait la boxe en France. Toi, si tu avais des blazes à Chahid à nous donner, ça serait qui t'a marqué dans la boxe et qui
Alors, moi, boxe en France, je dirais comme gros nom directement Jean-Marc Mormec.
Ouais, Mormec, c'était pas mal.
Moi, Jean-Marc Mormec, vraiment, si je parle français, c'est vraiment le boxeur qui m'a,
par
qui
excellence,
m'a impressionné. Ouais.
Ouais,
le français, il est parti s'exiler aux États-Unis.
Ouais.
Il battait les Américains chez eux. Il ramenait les Américains en France. Il les battait en France. Donc il est parti boxer David Haye, Vladimir Klitschko. Donc il
a très belle carrière.
Et pour avoir échangé avec lui plusieurs fois.
Ouais, parce qu'il t'entoure, c'est ça.
Il a gardé toute sa tête. Donc
il est assez sympa, vraiment.
Voilà, très
vraiment.
Simple et
dans des interviews,
c'est un champion, je pense, dans et en dehors du ring aussi.
Ouais. Et Maïlys, toi, quels seraient est-ce que tu as eu des modèles en boxe ou même dans d'autres sports? Parce que on va revenir sur ton parcours. Je crois qu'il est, il est un peu atypique.
Alors. Oui, en effet, j'ai un parcours assez atypique parce qu'avant, du coup, je pratiquais du tennis. J'ai commencé à l'âge de 3 ans.
Justement, le tennis, on en parle beaucoup. Et c'est...
je pratiquais du coup à haut niveau. Je voulais faire Roland Garros. Voilà, c'était mon objectif. Des fois, je m'entraînais à Roland Garros, etc. J'étais vraiment en équipe de France.
Tu peux encore
le
faire.
Hein.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Non, parce que en fait, les finales des JO,
vont se passer
à Roland Garros.
À Roland Garros, c'est vrai.
C'est pour ça que 2024, parce que je suis assez jeune en fait. Mais du coup, moi, normalement, je devrais plus avoir les yeux rivés sur 2028. Mais c'est vrai que 2024, ça m'attire particulièrement parce que justement, c'est sur ces terrains de Roland Garros. Et du coup, voilà, c'est un rêve un peu de
C'est
un rêve.
Et aussi, c'est en France. Ça dit, les Jeux Olympiques sont en France. Et ça vient tous les un siècle, voire les 80 ans. Dans un pays. Non, mais c'est vrai. Vivien. Et aussi Solal.
Justement, ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes du coup avec Montjoin, que le coach Riyad Kerbache. Alors Montjoin, c'est un club assez jeune qui a 6 ans. Qu'est-ce que ce coach il vous apporte? Et on peut se demander pourquoi est-ce que vous avez envie de rester dans ce club qui est assez jeune finalement?
Moi, il faut savoir que je m'entraînais avec Riyad. J'avais 10 ans. Il était entraîneur déjà auparavant au Boxing Club de Vigneux. Donc on a démarré au Boxing Club de Vigneux ensemble. Il entraînait, donc il m'a entraîné déjà depuis tout petit, donc ça fait plus de 10 ans qu'il m'encadre. Quand il a ouvert son propre club, le Noble Art Boxing à Montgeron, moi j'ai passé un an de plus à Vigneux, après je l'ai suivi. Et donc là ça fait plus de 10 ans qu'il me suit moi personnellement. Moi, ce qu'il m'apporte, c'est une grosse rigueur, une très très grosse discipline. Donc lui, il insiste vraiment sur la discipline. Je manque pas de détermination. Je suis un boxeur assez déterminé de personne. Donc j'ai pas besoin qu'on me motive. Je suis toujours motivé. Mais voilà, la discipline, elle est importante. C'est là où lui, il m'aide un peu la discipline et le côté mental de la boxe. Je pense que sans lui, ce serait un peu compliqué dans le ring. Moi, j'ai boxé ce week-end avec une main cassée. Je pense que j'aurais une autre personne dans le coin, j'aurais pas fait ce combat.
D'accord. Ouais. Et comment, pour les auditeurs, comment est-ce que vous expliqueriez un peu, peut-être pas une journée type, mais on va dire un mois type, est-ce que vous avez des séances un peu classiques? Est-ce que peut-être vous faites des stages, peut-être en province, à l'étranger? Comment est-ce que ça se passe?
Faut savoir que Maëlys et moi, on est membres de l'équipe de France, donc en général, il y a toujours des stages ou des tournois qui se font à l'international avec l'équipe de France. Mais sur le côté avec le club, on s'entraîne tous les jours. Tous les jours, le matin on s'entraîne de notre côté, je pense, moi pour ma part, elle aussi. Et l'après-midi, le soir, on est avec le coach, avec Riyad. Et c'est comme ça tous les jours. Et le week-end, on prend un petit jour de repos et on entame toutes les semaines, c'est comme ça.
C'est du sparring.
Beaucoup de sparring beaucoup, ouais. pas tous les jours, parce que sinon.
Ouais, c'est physique.
Ouais, c'est physique et ouais, c'est pas bon de prendre des coups tous les jours. Donc on évite de faire beaucoup de sparring. Les sparring, ils sont plutôt quand on est avec l'équipe de France, on les privilégie avec l'équipe de France, c'est plutôt plus cadré, on va dire. Ouais. Alors, quand on est avec le coach, c'est beaucoup de travail physique, beaucoup de cardio au sac, à la piste, de la course.
Mais vous entraînez ensemble, on en parlait un peu en préalable, vous entraînez ensemble, ça te fait pas bizarre de devoir boxer une fille comme Maëlys? Comment vous gérez ça? Parce que du coup vous entraînez vraiment vous deux dans le même ring, j'ai envie de dire, non?
Bah bien sûr, après faut savoir que moi Maëlys je l'ai vu commencer, donc là ça fait 4-5 ans qu'elle boxe, moi je l'ai vu commencer, donc j'ai vu toute sa progression.
Ouais.
Je pense que j'ai pu contribuer un peu à sa progression.
Ouais, ça,
donc, c'est cool.
Très
c'est
tôt,
de
elle a,
on de
a,
l'entraide.
Voilà, très tôt, elle, non, on a, commencé, j'ai commencé à boxer avec elle, et forcément j'avais peut-être un petit niveau d'avance, on va dire. Ouais. Aujourd'hui, elle est en train de me rattraper là.
Elle a quand même 3 ans de moins, faut rappeler aux éditeurs.
Bien sûr. Ouais. Donc non, elle a vite progressé. Je pense que j'y ai contribué un peu.
Mais tu lui mets pas des coups super forts?
Non, jamais. Jamais. Non. Faut savoir que les entraînements, c'est toujours très
carré. Surtout
que Maëlys, elle vient juste de passer senior. Je sais pas si vous vous rendez compte.
Elle vient d'avoir.
Voilà, c'est le
parcours. Avec tout le respect que je lui dois, c'est un peu du Zaire Emery, quoi.
C'est le même type de potentiel, sur une craque.
Ouais, voilà.
Sur une craque,
c'est ça.
Elle a même dû avoir un mot de correspondance pour participer au championnat de France senior avant de combattre chaque combat,
sa mère devait signer. Les parents doivent
nous écouter ce soir, alors attention. Ce qui est fort, c'est que tu continues tes études et tout, Maëlys, en parallèle via les parcours sport-études, etc. Donc tu continues aussi cette voie traditionnelle, j'ai envie de dire, de la fac, etc. Et même toi, je crois que même toi, Charlie, tu t'avais fait ça aussi, non?
Moi, j'ai profité de mon cursus quand j'étais interne sur l'INSEP pour passer mes diplômes d'éducateur sportif.
Ouais.
Je suis pas une grosse tête à l'école, pas comme Maëlys. J'aurais pas pu faire ingénieur, je pense.
Elle a sauté de classe en plus.
Mais voilà,
le tout quand tu seras au sommet, c'est de pas prendre la grosse tête.
C'est un peu au sommet. Aurélien n'est pas avec nous, le coach mental.
Quand ils auront leur Ferrari, les deux, je sais pas si on pourra les approcher.
Tu vas les approcher. Solal, allez, Solal, une réaction.
Bien sûr, c'est une chance sur Beurre FM d'avoir Maëlys et Shadi. Est-ce que je peux vous tutoyer déjà? J'ai un petit mot à dire. Quand je croise des plus jeunes, en général, je leur conseille de se faire une expérience partout, que ce soit des hommes, des femmes. Donc, franchement, Maëlys, gros big respect. Je sais pas si vous en rendez compte, mais félicitations en tout cas de représenter donc toute la gente féminine à travers ton sport. C'est vraiment une très grande force. Et Shadi et Maëlys, vous êtes génération 2000, un peu comme moi.
Voilà.
Donc, je trouve ça encore plus énorme qu'à votre âge, vous portiez un peu ce flambeau-là, que ce soit en équipe de France ou à travers vos combats. Donc, encore grande félicitation. Moi, j'avais une question justement là, la musique qui tourne un peu en fond depuis tout à l'heure, c'est Eye of the Tiger. Qui est la bande originale du film de Rocky. Quel film de boxe ou de combat vous a donné envie, ou peut-être que même pas forcément donné envie, mais que vous regardiez ou que vous regardez encore?
On se motive aussi.
Exactement. Est-ce qu'il y a des films comme ça que vous regardez?
Oui, Rocky, franchement, c'est un film vraiment mythique. Moi, à la base, quand je faisais du tennis, je regardais Rocky et je trouvais ça super inspirant. Et même au tennis, parce que Rocky, c'est bien pour la boxe, mais aussi pour les autres sports, l'aspect mental. Ouais. Et du coup, on essaye de le retrouver un peu partout, même dans la vie de tous les jours et tout ça. Du coup, maintenant que je fais de la boxe, c'est encore plus concret. Mais du coup, oui, Rocky, c'est vraiment la base, on va dire.
Tu as dit?
Ouais, Rocky, vraiment, moi, un peu plus vieux qu'elle. Donc, moi, c'est mon papa qui me faisait regarder, Rocky.
Et les Creed aussi un peu ou pas du tout?
Les Creed, oui, les Creed, okay. on a suivi la saga. Donc en fait, même demain, il ressort un Rocky 7, je vais payer ma place et je vais aller regarder.
Je crois que
donc voilà, donc je pense que ouais, c'est surtout les Rocky, ça a bercé mon truc et on voulait tous faire. Moi, je m'imaginais dans ma chambre
en Rocky, je boxais
un mec, je m'imaginais dans Rocky.
Incroyable. Voilà, donc tu ressors de du ping, tu boxes.
Quand je pars faire mon footing, j'ai la musique dans les oreilles aussi.
Dernière question pour rester un peu sur le thème artistique, c'est une question que j'adore poser aux sportifs tout simplement parce qu'il y a quelque chose, une espèce de routine qu'on fait tous dans les sports de combat. Il y en a qui aiment bien avoir leur petite palette de lapin en termes de chance, il y en a qui vont faire des petits pas, d'autres des prières. Est-ce que vous écoutez de la musique pour rester sur le thème artistique et quel artiste vous écoutez forcément justement?
Alors on veut les artistes.
Du rap, non? Du coup moi, me concernant, j'ai ma playlist que j'écoute avant chaque combat.
Alors Maëlys.
Du coup, j'ai ma playlist que j'écoute avant chaque combat pour m'échauffer. Et ce qui revient beaucoup, du coup, et je pense que Chadi aussi, c'est Booba. Je l'écoute énormément. Ouais. Et à mon dernier combat pour la finale des France, du coup, j'ai mis sa musique numéro 10 en musique d'entrée.
Ouais, numéro 10, ça n'est pas mal.
Ta finaliste aussi, d'ailleurs.
Ouais. Oui, voilà. Et du coup, voilà, c'est surtout Booba. Après, bon, il y en a d'autres, mais en 1, je mettrai Booba.
Booba. Pour ma part, j'ai une playlist dans mon téléphone. Elle s'appelle Pour la guerre.
Carrément.
Et dans l'ordre, on va avoir un gros son qui vient de mon département du 91, la Comera. Ça veut dire on va les buter. D'accord, donc c'est un son qui date de 2009. Ouais, c'est le son que j'ai mis en entrée. Je l'ai mis en entrée pour ma finale là. C'est un très gros son dans notre département, super connu. J'ai beaucoup de Kerry James. Kerry James, moi, depuis tout petit, F4, du Booba. Ouais, gros Kerry James, vraiment.
Ça écoute un peu de Gros Dash dans le 91 ou...
Gros Dash, très peu. Mais voilà, moi, je suis sur du. J'écoute vraiment, j'écoute des sons plutôt anciens. Je suis sur du Kerry James, du La Comera, du Booba, Rof aussi.
Pas mal.
Un peu de Rof, mais
puissance,
voilà.
La puissance, ça te met direct.
Ça fait plaisir aussi à Benji.
Cette interview magnifique.
Un petit surnom, Shadi, je crois, non?
Yes, alors. The Little Pharaon, moi c'est mon surnom, moi c'est d'origine égyptienne. Deux parents sont égyptiens. Ça me tient à cœur, moi, de représenter mes origines. J'ai mon papa qui est très fier de moi, donc. C'est aussi ma manière à moi de rendre le truc ils voient The Little Pharaon et que les gens m'appellent The Little Pharaon. Donc ça permet pour moi aussi de mettre un peu l'Égypte un peu plus connue dans le monde de la boxe en France. Je pense que historiquement, je dois être le premier franco-égyptien champion de France. Je ne connais pas d'autres. Donc voilà, ça me fait plaisir moi aussi.
C'est carré.
Une grande nation, l'Égypte,
grande nation du sport.
Ouais, c'est vrai. Maïdis, peut-être aussi.
Un petit surnom? Non, pour l'instant, pas encore.
On va t'en trouver un, t'inquiète
pas. On va en trouver un, c'est ça, Moussa.
Ça va être assez simple.
À son premier KO.
On remercie Maïdis et Shahidi de nous avoir accompagnés sur cette antenne de Beurre FM. Vraiment, c'était assez intéressant. On a Nasser qui nous dit, eh ben, la boxe, c'est assez vraiment, c'est cool, quoi. C'est la joie de vivre, la boxe. Écoutez, pas comme le football.
C'est, avant de prendre un coup. Enfin, tout le monde est souriant avant le premier round.
Ils sont cool. Écoutez. Comparé à nos champions de foot.
Est-ce que vous avez vu leur visage? On va les mettre le visage. Ils ont combattu il y a 4-5 jours. Ouais. Regardez, on dirait des chérubins.
Voilà. Ils sont beaux.
Voilà. Non, mais en tout cas, je les remercie vraiment d'être venus. Je remercie aussi Beurre FM de leur donner de la visibilité.
Et toujours, Beurre FM donne la parole à tout le monde.
Ils représentent tout ce qu'on aime, la jeunesse, le talent, le travail. Franchement, je remercie encore. Et je remercie la formation. Le coach Real, tous les coachs de la France entière aussi.
De ces clubs. J'espère que Maïlys va déchirer à Villepinte là pour les JO 2024.
Ce sera du côté du foot. Déjà, on se prépare.
On va essayer.
C'est petit à petit.
Un grand merci Maïlys et Shahidi d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On va marquer d'une courte pause et on va revenir pour la dernière partie de cette émission avec la Super League et Monsieur Galtier.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour pour la dernière partie de cette émission de Time Sport. Et oui, on a parlé avec nos deux invités, Maïlys et Shadi de boxe. On a parlé aussi de l'Olympique Lyonnais. Place maintenant au nouveau dossier de cette émission.
Time Sport.
La parole des sociaux.
Eh oui, ce jeudi matin, le football ne parle que de la décision de cette fameuse Cour de justice européenne. Cette dernière a donné raison à la fameuse Super League dans ses affaires juridiques avec l'UEFA et aussi la FIFA. Les deux instances du football étaient contre ce projet et menaçaient surtout les clubs et joueurs de sanctions. Ça fait tant jaser, justement, cette Super League. On t'écoute, Benji. Eh oui.
Non, moi, je suis peut-être un vieux con. Ça y est, je suis peut-être un vieux con, mais moi, ça.
Moi, tu le râles.
Ouais, voilà, moi j'assume, voilà, je suis droit dans mes bottes. Ouais, moi la Super League, ça m'emballe pas. Voilà, je vous le dis, je suis attaché à mes championnats nationaux, je suis attaché à voir les gens se battre pour aller jouer la Ligue des Champions, je suis attaché à ce qui fait l'essence même du football, ce à laquelle on est habitué. Et pourtant, je suis pas un anti-ligue fermée, que ce soit dans d'autres sports. Voilà,
comme le relais, c'est ouais, ça me fait penser un
les
peu
play-offs.
À ça.
Ouais, mais exactement, mais ouais, même qu'on parle dans le sport, ouais, voilà, ce qu'on peut avoir en NBA, ce qu'on peut avoir même dans l'e-sport, c'est quelque chose qui se fait beaucoup également, où il y a des championnats fermés, et ça marche très très bien, puisque ça regroupe les plus gros joueurs, ça regroupe les plus grands talents, et c'est là où t'as les plus belles compétitions. Mais c'est vrai que dans le sport, moi, j'ai pas envie, dans le football du moins, j'ai l'impression que c'est pas ce qui va plaire. Du moins aux supporters, aux suiveurs du football. Alors peut-être ceux qui ont moins de 20 ans bien et sûr. Qui ont grandi avec ce que j'ai énoncé précédemment, peut-être que c'était quelque chose qui peut les faire vibrer. Mais moi, de mon côté, je trouve que vraiment il faut regarder quand même ce côté qui est régional, qui est familial et qui permet du coup d'amener ce côté où tu suis une équipe et où tu la vois vibrer en Ligue des Champions. Après, je comprends où ils veulent en venir, je comprends le pourquoi du comment, mais j'ai pas envie de voir ça dans le
Benji n'a pas envie
dans Benji le je pense vraiment alors, que Juba. L'intérêt principal de cette Super League il est mercantile, c'est-à-dire que c'est une histoire de gros sous, ça s'inscrit dans ce qui est maintenant devenu le football, c'est-à-dire du business avant tout aujourd'hui, où on voit malheureusement avec toutes les sommes colossales qui circulent dans ce sport-là que l'argent a pris le pas sur le sportif, et donc vraiment l'intérêt il est mercantile de base. D'ailleurs il y a un intérêt même pour le Barça, parce que le Barça est complètement déficitaire avec une dette monumentale de plus d'1,5 milliard d'euros, et ça la Super League pourra leur permettre de résorber cette dette avec 1 milliard d'euros qu'ils pourraient encaisser.
Il y a juste des clubs français qu'ils ont accepté, hein.
Comment ?
Il y a des clubs français qu'ils ont accepté aussi.
Eux, comme ils sont à l'initiative, ils ont plus de rentrées financières. Mais en tout cas, voilà, donc c'est vraiment, je pense, dans cet objectif-là, les sous. Après, là, on voit aujourd'hui, dès le jour de la décision, le jour où a été rendue cette décision de la CJE, la Cour de justice européenne, il y a déjà des clubs qui ont dit stop, nous on n'y va pas.
On n'y va pas pour le moment, Jouba.
Je sais pas s'ils vont y aller, parce que on sait qu'il y a un gros lobby aussi de la part de l'UEFA. On sait que il y a des intérêts, parce que
à qui la faute, l'UEFA, la FIFA, cette Super League, à qui la faute, là est la question.
Mais moi je suis assez d'accord,
justement.
Pour le coup, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jouba. Je n'ai pas coutume quoi tout à l'heure, mon cher Jouba. Dans le sens où c'est
boxeur pour vous mettre d'accord,
c'est
en
comme
fait,
quoi, c'est comme quoi c'est fou, hein, tout arrive. Mais non, dans le sens où tout est une question d'argent. Et moi, ce qui me fait extrêmement peur, bon, on le sait évidemment que la FIFA, il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et c'est ce qui amène à ce genre de scénario qu'on n'avait absolument pas envie de voir. Mais moi, ce qui me fait très peur, c'est de, en fait, peu importe. Soit tu vas arriver dans un cas de figure où les clubs qui vont aller en Super League, donc on va prendre déjà l'exemple du Real, de Barcelone, et on peut rajouter plein d'autres top clubs, imaginons qui s'y rendent. Soit t'as la Super League qui va performer, qui va être un trophée, qui va être reconnu, qui va avoir beaucoup de choses, qui va être énormément exposé, beaucoup qui vont être mis en avant et qui va être le trophée par excellence. Et dans ces cas-là, bah, perte d'intérêt pour les autres coupes européennes, ce qui est logique puisque ça va être vu comme des coupes inférieures. Et c'est ce qu'on voit dans les autres championnats où il existe un titre et une ligue fermée. Ça veut dire que c'est le titre ultime. Et quand tu vas prendre, même au niveau européen, si tu prends une ligue fermée européenne et des championnats et une compétition européenne, elle aura beaucoup moins de valeur, beaucoup moins de succès. Et même si tu prends dans l'autre sens, hein, tu peux prendre le moment où la Super League est un flop absolu. Tous les clubs qui y sont, ils jouent et il n'y a pas de prestige, et c'est la Ligue des Champions qui va garder ses galons. Mais dans l'un ou dans l'autre, on va perdre des clubs, on va perdre des compétitions, et moi ça me fait chier.
Ouais. Je rejoins totalement Benji parce que alors là, la Super League, ça me parle pas du tout. C'est pas quelque chose qui me fera bouger ou qui me fera vraiment réagir ou aller regarder.
Peut-être on dit ça aujourd'hui. Après, elle va aller savoir.
Non, mais je reste toujours fan de cette Champions League.
Même nous.
Voilà, donc.
Même nous.
Et des championnats tradis aussi.
Enfin, on peut raconter ce qu'on veut, mais moi, pour le moment, ça me fait pas, ça me parle pas, ça me fait ni chaud ni froid. Et puis voilà, on verra ce qui va se passer plus tard. Il y a que les coups qui changent pas d'avis.
Mais c'est ça, c'est-à-dire que l'évolution.
Mais comme disait Benji, si tu me parles de Super League, c'est que là, déjà, merci toutes les. Il y en a beaucoup des coups. À jouer, etc.
Bien sûr.
Mais ça va décribiliser, si vous voulez, la Champions League quelque part.
Il y aura du changement.
Je reste à la version, à l'ancienne version. Quoi.
Ça va relancer le niveau de la Ligue des Champions aussi, parce qu'ils vont réduire vraiment au top club. Donc tu n'auras que des grosses affiches, du Bayern Real, du
gros match. Barça,
tatati. Il y en a qui pourraient aimer.
Merci, Jouba.
Mais il n'y a plus cette magie de la coupe où tu peux avoir des petits poussées.
Moi je suis un peu comme tout le monde, un peu mitigé, parce que là le problème c'est qu'on a une institution qui fonctionnait quand même bien, qui s'appelait la Ligue des Champions. Alors la vision de la FIFA, c'est vrai que je pensais tout de suite un peu à l'Euroleague en basket, mais je trouve que c'est un modèle différent, parce que le basket, faut rappeler aussi au basket en Europe, les championnats européens en club, ils sont beaucoup moins attirants. Par exemple, même la Liga en basket, je trouve que c'est beaucoup moins attractif que la Liga en foot. C'est pour ça que au basket, je trouve que ça a du sens qu'une espèce de ligue comme ça des puissants.
La Pro A, tu veux dire?
Oui, mais je parie, parce qu'en basket, la Liga aussi existe, parce qu'il y a aussi le Barça et le Real en basket.
Mais
c'est pour ça que je disais que, pour terminer, oui, je suis assez mitigé, mais j'attends de voir. Moi, je ferme pas la porte, mais on a l'impression qu'en fait, on a un football, on sait pas où on va, et c'est qu'en fait, on est dans une bulle financière qui peut très vite exploser, donc voilà, c'est dur à dire où est-ce qu'on va dans le football.
Cette bulle un peu.
Mais d'un côté, les dirigeants aussi, c'est un peu leur rôle aussi d'anticiper, de tenter des choses. Moi, je trouve que la Ligue des Nations, pour moi, a été une réussite pour moi.
Solal, on t'écoute. Dernière réaction concernant cette Super League avant de parler de Galtier.
Vous l'avez tous très bien dit, pour moi, c'est le business, le mot qui règne. Moi, je regrette cette époque où on allait au foot et quand on n'avait pas nos protège-tibias, on mettait du carton à la place. On est passé de ça à un truc qui est devenu super élitiste. Le football se gentrifie, malheureusement. Et moi, ça me donne de la peine pour les générations à venir, tout simplement parce qu'il y aura de plus en plus de matchs pour eux. Des joueurs de plus en plus fatigués, aigris. On commence déjà à le percevoir un peu. Je trouve qu'il manque un peu cette modestie-là, que ce soit au sein du collectif des joueurs, mais aussi des staffs et des gens qui font les règles de ce football-là. Donc pour moi, la Super League, ça fait longtemps qu'on en parlait, ça fait longtemps que pour moi c'était une très mauvaise idée. Le nom a beau être brillant, clinquant, etc., pour moi ça coche d'autres réalités footballistiques, financières, qui sont beaucoup plus atroces et qui vont donc pour moi mettre en porte-à-faux très malheureusement des plus petites équipes ou des équipes qui auront des ambitions de briller à travers autre chose que cette Super League-là, malheureusement.
Le dernier sujet de cette émission, c'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
L'ex-entraîneur de Nice, Christophe Galtier, relaxé à l'issue de son procès pour discrimination et harcèlement envers des joueurs musulmans. C'est ce qu'on a pu entrevoir sur les pages de nos confrères de France Info. Christophe Galtier était jugé par le tribunal, on le rappelle, correctionnel de l'agglomération niçoise et encourait un an de prison avec sursis et 45 000 euros d'amende. Faussel, peut-être une réaction.
Franchement, c'est la meilleure des punitions, je dirais ça comme ça. Franchement, avec tout ce qu'on a pu lire, vu
les gens critiquer, les gens insulter,
on l'a laissé
tranquille, la présomption d'innocence, on tient à le rappeler. Time Sport, Beurre FM,
toute l'ampleur que ça a pris cette histoire pour qu'il finisse comme ça, moi j'ai dit quelque part bravo, t'as eu la meilleure des punitions. Qu'est-ce qu'on peut dire, avec tous les joueurs à l'époque qui sont partis, justement ont témoigné, ils ont rappelé, ils ont parlé, etc.
Le jour J, il y a eu personne,
il n'y avait personne, et lui il se défendait.
Il était présent,
et
il est revenu du Qatar justement
j'ai juste été manipulé, on m'a piégé, je suis pas raciste, je veux pas aller plus loin dans mes propos.
Il y a Nasser au téléphone en plus.
Des exemples et tout ça, c'est comme si je disais j'ai un ami à moi qui est arabe ou j'ai un ami à moi qui est noir, donc il faut arrêter au bout d'un moment avec je suis pas raciste, avec tous les propos qui ont été balancés et que les faits qui ont été
été rapporté. Déjà, après, on n'a vu personne au tribunal.
Ah bah ouais.
Et bah,
ah
bah monsieur, on, il a bah
ouais. Voilà, ouais, mais donc, on dit, mais justement,
peut-être qu'il connaissait pas l'adresse.
Faut laisser tomber, les gars. En tant que journaliste, grosse blague. Je m'attarde à ça. Moi, professionnellement parlant, ce soir, je le dis sur l'antenne de Beurre FM. On dit que il a eu des propos racistes. Grosse blague. Et en arrivant, le gars se pointe à 3000 km au Qatar, qui vient le jour de son procès. Non, non, mais vraiment, moi je suis pas blague. Là, c'est pas une blague. Et il arrive, et il n'y a personne en face pour dire justement, en quelque sorte, ce qui. Je vais le faire simple hein, pour les auditeurs, les auditrices, mais voilà, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, il y a eu peut-être ces propos-là et tout. Là, quand même, on peut se poser certaines questions, Fawcett. Et je sais que tu en es d'accord. Oui, on a Nasser avec nous, mais vas-y, Jouba.
Rappelons que c'est Jouba. Toujours pas fini, cette histoire.
Ouais, c'est toujours
Galtier,
pas fini. Hein.
Galtier avait porté plainte contre Daniel Riolo, Romain Molina et puis
c'est quoi ta conviction, Jouba?
Donc il y aura des suites parce que visiblement comme il a été relaxé, il peut encore faire valoir son droit et le préjudice en diffamation qu'il a été.
Jouba, c'est quoi ta conviction?
Non, mais moi j'ai pas de conviction. Moi, je suis journaliste, je suis pas convaincu. Moi.
Vas-y, Jouba.
Et donc on a un procès qui a eu lieu. Vivien, il y a eu un procès. Il y a eu une décision de justice. Moi, je suis respectueux de l'état de droit et de la justice. Donc je prends acte et j'ai rien à dire. Ouais. La justice a fait son travail.
Bien sûr.
Ah, basta. Ouais. Moi, j'ai pas de positionnement, Vivien.
Bien sûr, c'est bien dit.
J'ai pu avoir quelques doutes, etc. Avoir des machins. Mais la justice, quand elle parle, moi, j'avais eu un gros débat musclé avec Rudy Kazi ici. Où il me disait par rapport à Mendy, moi quand la justice parle, je la boucle. C'est la justice. Et donc, ça, il a été relaxé. Et c'est tant mieux pour lui. Et
on est avec Vivien, Mendy et Nasser. Nasser, réaction de Nasser. Allez, on l'a avec nous. 0153-48-3000. Bonsoir Nasser. Comment ça va Nasser?
Comment tu vas?
Bah écoutez, moi je suis très 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 satisfait ce soir. Ce soir, comme je vous l'ai dit depuis plusieurs semaines sur ce plateau, d'ailleurs on doit être un des seuls médias qui n'ont pas vraiment pris parti, mis à part vous et moi, j'avais un doute vraiment sur cette affaire, mais il faut le dire, beaucoup de médias ont jeté l'opprobre sur cet entraîneur emblématique, car je vous rappelle qu'il était aux portes de l'équipe de France.
Deux fois champion de France.
On a essayé de salir cet homme, et voilà. Alors aujourd'hui, c'est des constatations, l'absence des victimes présumées, bien sûr. Le procureur de la République, oui, il a fait son travail tout à fait normalement. Il a poursuivi pour des infractions qui sont toutefois normales. Hein, on lui décrit par exemple du harcèlement, du discrimination raciale. Maintenant, il y a une justice qui est rendue. La justice, elle a rendu une justice indépendante, bien sûr, dans ce pays. Et elle a jugé de ne pas condamner cet entraîneur que je vous rappelle, qui est bien sûr attendu dans plein d'autres clubs européens. On va reparler de lui, bien sûr, dans les prochaines semaines. Mais voilà, l'information ce soir, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas condamné, il n'y a pas d'infraction, rien du tout. Les victimes ne se sont pas déplacées. Et encore, il faut le dire, la France est un pays indépendant. Oui. La justice est indépendante.
Oui.
C'est ça qu'il faut relever. Et elle a pu juger cette affaire tranquillement, avec des éléments. Et il n'y a pas d'infraction. Oui. Voilà, le résultat, c'est ça ce soir.
Ah ben voilà, on va laisser...
Comme disait l'avocat, il a raison.
Oui.
La justice, bien sûr, elle se rendra. Et dans le cadre d'un débat contradictoire avec les magistrats, et ça ne se fait pas sur des plateaux de télévision ou de médias.
Ouais. Merci Nasser, on va vous laisser filer. Hein. Rejon face au Bessis, un but pour Rejon. Oui, pour terminer avec Benji.
Non, mais c'est vrai que je trouve qu'on a, comme l'a dit Nasser, on le fait rarement.
Oui, c'est bien dit, Nasser.
On va jeter des fleurs. Je pense qu'on a, c'est une affaire qu'on a plutôt bien traitée sur cette antenne. On a réussi à toujours peser le pour et le contre, à se baser sur les faits. Voilà. La justice a été rendue. Et maintenant, ce qui va être compliqué, c'est que malheureusement pour Christophe Galtier, il y aura toujours cette image qui lui collera à la peau. Parce que même quand une justice est rendue, il y a toujours les gens qui vont parler sur les réseaux. Et il y aura toujours cette image qui lui sera collée. Après, voilà, je vais pas rendre de verdict ou quoi que ce soit. J'ai vu des choses qui m'ont surpris également dans ces déclarations.
Les
qu'il a pu avoir et le verdict qui est rendu.
Ouais. Ce qui était pas mal étonnant, c'était les réquisitions du procureur, Bilal. Ouais. Parce qu'il y a eu des réquisitions d'un an de prison, 45 000 euros d'amende, ouais, etc. Mais... Donc,
Jouba,
ça veut dire que le procureur, le juge a totalement désavoué les réquisitions du procureur. Donc, ça montre aussi.
Mais ça veut rien dire. Hein. Les réquisitions ne veulent.
Quand t'as un procureur.
C'est un procureur.
Si le procureur.
Mais le juge, s'il veut, il ne suit pas le procureur.
Donc, c'est ce que
toi et moi maintenant du côté.
Il a complètement désavoué les réquisitions du procureur.
Tu peux rien dire du moment que. Voilà, si on va jusqu'au bout, justice elle est là pour faire son travail. Et puis
en tout cas, là, il n'y avait que monsieur Gatti qui allait jusqu'au bout. Excusez-moi, faut le rappeler. Voilà, il était le seul dans ce palais de justice et voilà, il a été le seul aussi du début jusqu'à la fin. En tout cas, on verra bien la suite. Et on lui souhaite que de toute façon,
le meilleur,
vraiment,
on avait reçu son fils, on essayera de le
recevoir.
Bien sûr, il te tapera la bise à toi et à Jouba, ça c'est promis pour les auditeurs, les auditrices. Un grand merci à Vanessa qui arrive jusqu'à 23h. Bye bye, on se donne rendez-vous dès demain.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.